Patrick Serrault-Chaibi et Fozia Fouad pour FM+, et son émission Aréopage. Vous choisissez des titres de la littérature des rives de la Méditerranée. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Je me suis trompée quelque part?
Oui, pour moi. Fawzia Zedam.
Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Zedam.
Fouad.
Non, mais Fouad, c'est une autre. Non, mais c'est une autre. Zedam. Bon, alors, voilà.
Pas de problème.
Merci en tout cas. Ça n'empêche pas les remerciements d'être là toutes les deux. Vous avez choisi deux auteurs. Yasmine Chami pour Mes déchéries, publié chez Actes Sud. C'est vous, Fozia, qui l'avez choisi.
Exactement.
Et vous, Monique, c'est Lamia Berada Berka pour Et vivre Beckett aux éditions Le Temps qu'il fait. On commence avec vous, Monique.
Oui, alors bonjour.
Un Beckett.
Alors, Lamia Berada,
oui.
C'est une jeune femme qui est à la fois marocaine et française, française de mère, marocaine de père, mais qui a aussi dans sa lignée une grand-mère écossaise, une grand-mère berbère, un grand-père suisse-allemand.
Wow.
Elle a coutume de dire que dans sa famille, ils ont perdu en trois générations quatre langues. Et elle ne maîtrise aucune autre langue, si ce n'est le français, qui est la langue maternelle, mais la langue grand-maternelle aussi, ce qui veut dire que c'est une langue qui est ancrée en elle. Et donc, c'est une femme qui a toujours été proche des livres. Elle avait une sœur qui, apparemment, était plus âgée qu'elle, donc elle a un peu eu le destin d'une enfant unique, et donc elle s'est réfugiée dans les livres très tôt. Donc d'abord dans l'écriture, enfin dans les livres écrits. Alors c'était très éclectique. Elle lisait tout ce qu'elle avait sous la main, je suppose.
C'est ça, baignée par la littérature, dans la littérature.
Et elle a commencé à écrire, elle devait avoir 7-8 ans. Elle a retrouvé des petits livres qu'elle avait illustrés quand elle était enfant. Donc elle a toujours été destinée à la littérature et aux mots. Et parmi les lectures qu'elle a eues dans son passé de lectrice, il y a eu Samuel Beckett, à qui elle a voulu rendre hommage. Donc le livre qu'elle a écrit, c'est en fait une lettre, donc c'est à la deuxième personne du pluriel. Bon, elle le voit quand même, hein, parce que Samuel Beckett, c'est pas facile
à
de
tutoyer
le tutoyer.
Comme ça, voilà.
Et donc elle lui donne de la chair. Tout le monde a la vision de Samuel Beckett comme un être sec, au sourire assez rare, au visage assez buriné, et plutôt pas forcément
distant,
abordable,
voilà.
Distant et tout. Et grâce à cette lettre, cette longue lettre, moi je sais que je me suis précipitée pour revoir des pièces de Beckett ou relire Beckett. Elle donne vraiment envie de retrouver cet homme qui a une écriture, mais vraiment unique. Personne n'a écrit autrement que Beckett, aussi bien
alors
dans ses romans ou dans ses pièces de théâtre.
Alors certes, Lamia Berada Berka choisit Beckett pour ses talents littéraires, mais aussi pour d'autres raisons.
Ben, elle retrouve dans Beckett des personnages qui lui rappellent aussi beaucoup de personnages du Maroc, enfin du Maghreb.
Et puis, elle est en vacances.
Voilà, et alors elle commence le livre avec le premier voyage de Beckett à Tanger.
Oui.
Tanger, qui est le troisième personnage du roman, parce qu'il y a donc Beckett, un personnage réel. Il y a Moussa, un personnage qu'elle imagine que Beckett a rencontré. Et puis, il y a cette ville qui est très présente, une ville qui rappelle à beaucoup des temps. Avant d'aller à Katmandou, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont allés à Tanger. C'est une ville qui est très riche, qui a toujours été assez mythique pour les Européens.
Et Beckett y allait régulièrement.
Et alors, il a commencé à y aller en 73 jusqu'à sa mort en 89. Des dates d'ailleurs qui sont très symboliques. 73, c'est la chute d'Ayandé et la naissance de la dictature. C'est la fin de la guerre du Vietnam. Et 89, l'année de sa mort, eh ben le mur de Berlin venait juste de tomber quand il a donné son dernier souffle.
Au moins deux ou trois bonnes raisons de faire cet hommage à cet homme de théâtre et d'écriture.
On pense quand même que Beckett a profité des couleurs, des saveurs, des odeurs de Tanger, mais sans forcément connaître profondément l'âme des Tangérois. Donc, le Moussa, le personnage de Moussa est peut-être là pour combler quelque chose qui n'a pas dû être dans la vie de Beckett. Et ce Moussa, il est comme Beckett, il connaît plein de langues, sauf qu'il ne les connaît pas du tout de la même manière que Beckett. Beckett, il a toujours écrit en français, enfin, pas toujours, mais il a très vite commencé à écrire en français des livres qu'il a traduits en anglais. Et quand il écrivait en anglais, ben, il les traduisait en français. Il a aussi appris l'allemand. Moi, j'ai l'impression que Beckett, c'est un polyglotte du silence, parce que c'était un homme qui était très avare de mots et qui en même temps connaissait des mots dans plusieurs langues et puis les utilisait avec beaucoup d'intelligence, de finesse.
Alors finalement, qu'est-ce qu'elle va lui écrire à Beckett d'une façon posthume, bien entendu, Lamia Berata Berka?
Ben, elle lui écrit déjà son admiration pour son écriture. Elle lui rappelle ses personnages qui sont des personnages qui sont tous des blessés, des handicapés, alors physiques ou mentaux, enfin des gens qui sont à l'extérieur du monde, qui sont des SDF, qui sont des malades mentaux, qui sont des gens qui sont en marge. Et elle met les personnages de Beckett en face des personnages que l'on peut trouver au Maroc aussi, y compris les femmes qui sont souvent laissées dans leur foyer ou qui ne sont jamais des femmes majeures. Donc, et le Moussa, il fait partie de ces gens-là. Moussa, il a un destin qui est très compliqué, qui est très violent, il est loin de sa femme et de ses enfants, il est tout seul, alors il baragouine en anglais, en français, en berbère, mais il parle, contrairement à Beckett, on sent qu'il utilise beaucoup les mots, mais pas forcément de manière très ordonnée. Et puis, alors moi ça m'a rappelé un peu l'échange qu'il peut y avoir entre Moussa et Beckett, alors ça c'est une allusion personnelle, à un film que j'avais beaucoup aimé, qui est Ghost Dog avec Forest Whitaker, où à un moment, on voit un Français qui parle sa langue, avec un Américain qui parle la sienne, et puis je crois un Italien qui est en train de faire un bateau, et tous les trois parlent des langues différentes, et on a vraiment l'impression qu'ils se comprennent. Donc voilà, j'ai pensé à ça en voyant le duo entre les deux.
Alors, Fozia Zedam, vous interviendrez plus longuement sur le second livre qu'on verra dans cette deuxième partie d'émission. Mais vous avez lu Et vivre Beckett, vous aussi?
Oui, je l'ai lu, effectivement. Et, alors moi, je ne connaissais pas du tout, enfin, je n'avais jamais lu de livre de Beckett. Et du coup, ce livre m'a donné envie de lire, ça c'est clair, ça donne envie. Elle a une écriture qui est très fluide comme ça et qui est très imagée. Et vraiment, il y a ce pouvoir qu'elle a dans cette écriture. Après, il y a ce personnage de Moussa qui est là, qui lui vit une vie, qui semble vivre une vie terrible. C'est une espèce de vie qui normalement n'aurait pas dû se rencontrer. Quoi, c'est ça, parce que Beckett, il a la vie d'un écrivain qui a mis du temps à se faire connaître. Je veux dire, parce qu'il a été connu un petit peu sur le tard.
C'est des manuscrits refusés.
Exactement, au tout début. Et c'est lorsqu'il est arrivé en France où sa femme, Suzanne, l'a un peu propulsé, l'a aidé à publier tous ses romans. Et puis intervient ce Moussa qui est une espèce de l'inverse de lui, quoi. Je pense qu'effectivement, ils ne parlent pas la même langue, ne vivent pas les mêmes choses, mais c'est une espèce de reflet, l'autre reflet de lui.
C'est ça.
Je le vois
l'autre
plutôt
côté du miroir.
L'autre côté du miroir, ce que lui ne saura jamais, ce que lui ne. Voilà. Est-ce qu'il est à même, Beckett, dans ce temple dans lequel il vit, est-ce qu'il est à même à imaginer ce que la vie de Moussa, c'est ce qu'il a pu vivre, effectivement, ce monsieur qui dès sa naissance, n'a pas eu de chance pour, et dans ce pays qui est emprunt, effectivement, avec une société qui est un peu tiraillée, je veux dire, qui a d'un côté cette bourgeoisie qui vit très bien, et puis l'autre côté où le peuple a toutes les difficultés de vivre, et ce Moussa est là, planté là devant lui, et une espèce de reflet, et effectivement, c'est cette C'est ces deux choses, c'est ces deux images qui sont, ouais, qui sont, assez, qui sont importantes. Et,
Donc ça, oui. C'est vraiment la construction de l'Amia Berada Berka, donc, pour donner...
Fawzia parlait du style, effectivement, le style est très beau, et moi, j'ai l'impression qu'aucune phrase n'est inutile. Je veux dire que ce sont des phrases très riches et tout, mais elles ont leur raison d'être dans ce livre. Elles apportent à chaque fois quelque chose. Je vais dire à propos de Moussa, c'est un peu vers la fin du roman, il y a un petit dialogue entre les deux qui peut aider à la compréhension. « Nos histoires sont sans mémoire, pense Moussa, parce qu'elles sont sans parole, sans aveu, sans traces, sans preuves, sans face-à-face, sans miroir. Nos histoires sont sans devenir. Et moi, je raconte des mémoires sans histoire, murmure Beckett. Alors peut-être nous rejoignons-nous quelque part, en effet.
Voilà, d'où la construction de l'auteur, d'avoir ce personnage-là pour valoriser finalement tout le travail sur l'histoire et le temps qu'a fait Beckett.
Alors c'est vrai que Beckett, c'est un grand humaniste, puisqu'il a écrit effectivement énormément sur ça, mais elle émet quand même un petit bémol, Lamia, à un moment donné, lorsqu'elle lui dit effectivement qu'il a pu s'émouvoir pour tous ces artistes européens qui ont eu des soucis. Voilà. Mais est-ce qu'il s'est ému juste avant sa venue en 73, qu'il y a eu des émeutes effectivement au Maroc, est-ce qu'il a écrit quelque chose dessus? Est-ce qu'il a écrit sur la misère de ces peuples, sur cette que ce soit des peuples ou des femmes qui vivent là-bas avec tout ce que ça comprend? Je veux dire, donc c'est bien. Elle est à la fois, on la sent à la fois
admirative
effectivement devant ce génie, et à côté de ça, elle a une retenue aussi, qu'il faut rappeler.
C'est ce que je disais au départ, qu'il ne s'enfonce pas dans le pays. C'est un peu le reproche qu'on faisait à Camus aussi.
Et voilà. Et vivre, Beckett, aux éditions Le Temps qu'il fait, de Lamia Berada Berka. C'était votre choix, Monique. Merci de votre analyse et de votre...
Enfin, les choix étaient communs au départ.
Les choix étaient communs, mais c'est vous qui vraiment vous êtes attelé à la tâche. Vous avez aussi choisi notre virgule musicale avec Mozart l'Égyptien, voilà, pour montrer ce métissage, ce lien entre les deux rives de la Méditerranée.
L'abattage des frontières.
Des frontières. On écoute quelques instants. C'est un hommage au Maghreb, à Beckett. On a commencé avec Beckett, avec l'ouvrage de Lamia Berada Berka et Vivre, Beckett aux éditions Le Temps qu'il fait. Et on continue, qui était présenté par Monique Serro-Chaibi. Et on continue avec vous, Fawzia Zedam, qui vous avez choisi en commun avec Monique, Mes déchéris de Yasmine Chami aux éditions Actes Sud. Alors voilà, une autre auteure.
Exactement. Et aussi d'origine marocaine. Non.
C'est
même
ça.
Pas d'origine marocaine, nationalité plutôt. Voilà. Donc elle est née au Maroc en 67, à Casablanca. Elle fait ses études en France. Elle est normalienne, anthropologue. Voilà. Elle rentre, lorsqu'elle a fini ses études, donc elle rentre à Casablanca et elle va diriger un vaste cycle de reportages télévisés sur la société marocaine en s'intéressant plus particulièrement justement au rôle et à l'espace des femmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être un petit peu... elle a écrit trois ouvrages, et ce qui est un petit peu le fil conducteur sur ces trois ouvrages, effectivement, sur la place des femmes, dans la société marocaine ou au Maghreb en général. Voilà.
Ceci dit, dans ce roman, c'était pas très, très présent, le Maroc.
Non, effectivement, mais ce qui est présent, c'est la place de la femme au sein du couple.
Mais oui, bien sûr, la femme est centrale.
Ah ouais, ça c'est
mais
vraiment.
C'est une femme quasiment universelle.
Oui, je crois aussi. Oui,
c'est
ça.
C'est un mythe universel.
Exactement. Alors ça commence, tout, enfin l'histoire, c'est elle est Médée donc est à l'aéroport, donc on suppose que c'est l'aéroport à Paris, on suppose que c'est un petit peu ça, il me semble. Elle fait une escale, elle est avec son mari parce qu'elle est venue, voilà, ils sont partis tous les deux pour un congrès qui va se passer en Australie, donc à Sydney. Et puis il lui demande tout simplement de l'attendre quelques instants parce qu'il a quelque chose à faire. Donc là, elle est dans le kiosque, il lui dit attends-moi et lui il part. Et puis au bout de quelques minutes, elle commence à s'interroger et puis le doute un petit peu s'instaure et là ses enfants, parce que comme elle a fait escale, donc ses enfants sont venus la voir, des enfants, donc Adam et Aya, deux grands enfants de 18-20 ans.
Deux enfants sur trois.
Exactement, puisqu'elle a une troisième fille qui s'appelle Samia, mais qui n'est pas là. Et puis, c'est ses enfants, effectivement, qui lui apprennent que leur père ne reviendra pas. Et là,
aïe.
Et là, aïe, aïe, aïe. Là, c'est la catastrophe, c'est le monde s'effondre, elle se fiche complètement, elle est tétanisée par cet abandon. Elle a passé quand même 30 ans de sa vie avec cet homme, elle lui a donné le meilleur. Et elle s'aperçoit que, voilà, elle l'a déposé en fin de compte comme un paquet cadeau à l'aéroport. Voilà, en plus le lieu est quand même symbolique, un aéroport où effectivement on est là en transition, où on est là pour partir vers d'autres voyages. Et là, elle se retrouve là, loin de chez elle, parce qu'elle habite Rabat. Et puis, loin aussi de ses enfants, même s'ils viennent la voir, loin de sa famille, du coup. Et là, du coup, la vie bascule dans quelque chose de complètement... De complètement flou. Elle qui est à la base, qui est une sculpteure renommée, qui est connue, qui a fait des expositions aux États-Unis et en France. Son mari, donc Ismaël, est donc chirurgien. Et donc voilà, donc lui, il est effectivement en filigrane, il est présent, mais il est quand même en filigrane dans le roman. Et elle, du coup, ça lui permet, elle va du coup revisiter sa vie, revisiter son histoire, revisiter ses choix. Un flashback sur son passé, sur ses parents, sur sa vie, sur ses amours, sur ce qu'elle a donné à cet homme, sur ses failles aussi. Et comme elle est sculpteur, donc du coup, elle a jalonné sa vie de sculpture par rapport effectivement à ce qu'elle avait. À chaque fois, elle a été donc enceinte trois fois. À chaque fois de grossesse, elle a créé des statuettes. Et donc tout ça, ça jalonne un petit peu son parcours et ça en dit long sur son état d'esprit. Et puis cet amour effectivement qu'elle retrouve à un moment donné, Juan, qui a été un amour de jeunesse, un amour platonique.
On approche de la fin là, et Monique ne voudrait pas dévoiler la fin.
Ah non, je ne dévoile pas la fin, je ne dévoilais pas la fin, mais simplement voilà, c'est ce flashback et cet amour effectivement en fait partie et va effectivement laisser plein de choses arriver. Quoi.
Alors pourquoi ce prénom Médée ?
Bah, Médée, c'est la mythologie grecque, c'est cette femme qui est tombée amoureuse de Jason dans la toison d'or et qui était tellement amoureuse qu'elle a pour cet amour elle a fait les pires exactions possibles et qui à la fin Jason l'a trahie, l'a abandonnée et du coup elle aussi elle s'est vengée mais d'une manière atroce.
Et oui.
Ça, c'est terrible.
Et donc voilà, c'est une Médée finalement moderne.
Oui, c'est une
Médée. À qui il arrive aussi, voilà, une trahison finalement. Elle a quand même donné 30 ans de sa vie à cet homme, Ismaël.
C'est sûr, mais elle a à la fois... je pense que son personnage est assez ambigu pour moi. Il n'est pas si simple. On a l'impression comme ça que c'est tout simple. Bon, elle est une femme qui a donné toute sa vie et qui se retrouve au bout de 30 ans. Voilà, son mari reconstruit sa vie avec une... On suppose qu'il a connu une jeune femme plus jeune, qu'elle parte. Mais je pense qu'il y a quand elle avait 16 ans, donc elle a rencontré cette amie, qui lui était fou, qui était sculpteur et qui était fou d'elle. Et à un moment donné, il y a eu un choix qu'elle n'a pas fait parce qu'elle a eu peur de cet homme qui était très connu. Et donc, elle
une
a préféré...
différence d'âge peut-être aussi.
Oui, mais je pense que c'était plutôt par rapport... Effectivement, lui aussi était sculpteur, était très reconnu. Et je pense qu'elle a pensé qu'elle ne pouvait pas avoir sa place avec lui, mais qu'elle pouvait avoir sa place avec Ismaël. Et c'est ça toute l'ambiguïté, Rodin. Effectivement, du parcours. Et ne dévoilant pas la fin, mais qui était très intéressante, effectivement.
Monique, vous avez aussi lu Mes déchéries de,
oui, tout à fait,
de Yasmine Chami aux éditions Actes Sud. Alors, vous pourriez peut-être ajouter
alors,
quelques propos à
cette Médée-là ne tue pas ses enfants, mais non, quelque part, en choisissant de rester à l'hôtel et de refuser la main tendue de ses enfants, quelque
part... De son fils aîné, particulièrement.
Aya, déjà, qui voulait qu'elle aille chez elle, et puis Adam, bon, elle a
surtout
des...
Surtout Adam, parce qu'elle est très proche
d'Adam. Oui, elle est très proche d'Adam.
Et puis qui veut lui apporter...
Et jusqu'au bout, mais elle le rejette, elle lui dit va-t'en, elle s'enlève de son étreinte, et elle le jette de cette pièce... Et donc, c'est pas, elle n'a pas pris un poignard pour les tuer, mais quelque part, c'est quand même douloureux de voir qu'on refuse une main tendue, surtout que la femme qu'on a le plus aimée au monde vous rejette. Donc, c'est le côté un peu Médée, mais heureusement moins dramatique, puisqu'elle va pouvoir changer.
Moderne.
Elle a un double prénom, en fait. Elle s'appelle Nour Médée. Donc, Nour est un prénom quand même plus... plus doux.
Lumière, ça veut dire la lumière.
Lumière en arabe, oui, effectivement.
Voilà. Et alors, elle parle aussi dans le roman, parce qu'on se demande pourquoi elle a ses blessures, pourquoi elle s'ingénie tout le temps à mélanger le plat, à mettre des formes et tout. Elle parle, dans sa jeunesse, elle a toujours été attirée, son regard a toujours été attiré par les mains, par la pression des bras, par les étreintes et tout. Et elle parle de sa mère... qui s'appelle Faïza, qui s'appelle Faïza, qui n'était pas du tout une mère tendre. Elle a plutôt trouvé la consolation et le côté charnel avec sa grand-mère. Donc peut-être que dans cette envie de malaxer, il y a ce manque de la jeunesse. Enfin,
oui. Et c'est pour ça qu'elle a tant de problèmes d'ailleurs avec sa fille Samia, la plus grande, qui...
Et alors,
la discussion se fait mal.
J'ai encore une autre Monique. Référence cinématographique. C'est que cette Médée-là, pendant longtemps, on se dit, mais où elle va aller? Bon, elle est dans cette chambre enfermée, mais elle ne descend pas manger, donc elle maigrit à vue d'œil, elle est complètement affaiblie, elle est dans un état physique épouvantable. On se demande où ça va aller. Et puis un jour, elle descend, elle rencontre une Irakienne qui a une vie bien plus dramatique qu'elle et qui lui tend la main. Et là, ça m'a fait penser à un film iranien, Le goût de la cerise. C'est l'histoire d'un homme qui, tout le long du film, cherche comment il va pouvoir se suicider. Et il rencontre un chauffeur de taxi qui lui dit « Mais il y a toujours des belles raisons de vivre, ne serait-ce que le goût de la cerise. » Et cette femme qui lui tend un morceau de banane, un morceau de chocolat, mais surtout qui lui apporte de l'affection, c'est le goût de la cerise qui va lui redonner le goût à la vie et l'envie de lutter et de refaire quelque chose.
Et on ne vous dit pas tout.
Voilà.
Et on ne vous dit pas tout. Merci à toutes les deux pour ce partage de très très belle littérature de Yasmine Chami pour Mes déchéries, publié chez Actes Sud, et de Lamia Berada Berka et Vivre Beckett aux éditions Le Temps qu'il fait. Merci à toutes les deux, à bientôt.
Merci.
Au revoir.